Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actualité internationale de la semaine qui nous emmènera à Mossoul, où les forces irakiennes, dit-on, avancent plus vite que prévu, dixit le Premier ministre. Alep, trêve fragile et l'Union européenne dénonce les atrocités de la Russie et des alliés donc de Damas. Doha, l'argent du Qatar a-t-il pourri certains politiques français? Et puis Las Vegas, inédit dans une campagne électorale américaine, Trump qui refuse de s'engager sur le résultat de l'élection présidentielle. 7 jours dans le monde, c'est parti.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec nous pendant une heure, Pierre Servent, journaliste, historien, écrivain, spécialiste des questions de défense. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Qui va vous proposer dans deux semaines, ça va sortir le 11 novembre, mais on en parle tout de suite. 11 novembre, c'est pas innocent, vous verrez pourquoi, on en parlera tout à l'heure. Le Testament aulique, c'est un roman, c'est une première pour vous d'habitude, ce sont plutôt des essais. Le premier roman de Pierre Servent. Avec nous également, Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir.
Bonjour.
Journaliste, écrivain, avec la sortie immédiate, cette fois c'est lundi. Le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, il y a 700 pages, c'est quelque part le roman de votre vie.
C'est vrai que c'est une ville qui fait rêver, et c'est un livre qui fait rêver, mystère, amour, évasion, des révélations sur la révolution russe, il y a 100 ans, des révélations sur Rasputin, des révélations sur 25 ans de la fin du communisme, mais je dois vous dire que c'est surtout le livre qui est lumineux. Les époques sont tristes, ouais. Comme les fêtes arrivent, c'est un livre, le dictionnaire c'est amoureux de Saint-Pétersbourg, qui m'a beaucoup réconforté.
L'actualité internationale, vous le savez, c'est l'offensive qui est réellement lancée sur la grande ville du nord de l'Irak, Mossoul, où sont reclus, vous le savez, 1,5 million d'habitants terrés. Hein. Mossoul qui avait été la première grosse ville d'importance à être conquise par Daesh en juin 2014. Plus de deux ans après, les forces irakiennes, les troupes d'élite du pays, les combattants kurdes, eh bien, se sont lancés à l'assaut des positions djihadistes. Et c'est le Premier ministre irakien qui faisait l'annonce donc en début de semaine.
L'heure de la victoire est arrivée. Les opérations pour la libération de Mossoul ont commencé. Ces opérations héroïques vous libéreront de la terreur et de l'oppression de Daesh. Bientôt, nous nous retrouverons ensemble à Mossoul pour célébrer la libération, célébrer votre salut. Nous pourrons vivre à nouveau ensemble dans la diversité de nos religions.
Et tout va vite apparemment, si l'on en croit justement ce Premier ministre irakien qui était présent cette semaine à Paris. L'avancée se fait plus rapidement que prévu. Pierre Servent, à quel moment, au bout de combien de temps, pourra-t-on dire que Mossoul est libéré? Parce qu'il y a le temps de la conquête, il y a le temps du contrôle.
Absolument, et c'est pour ça que je me garderai bien de dire que ça va vite ou ça va pas vite. Parce qu'on est vraiment dans la première phase, il faut se rappeler les prises des forteresses d'antan, c'est un peu ça, ceux qui vont faire le siège s'approchent au plus près, donc font la conquête des faubourgs ou des premiers villages qui entouraient la place forte. Donc on est dans cette période-là, et comme les combattants de Daesh sont en sous-nombre, par rapport à la force adverse, ils combattent de 1 à 50.
Ils sont 3 à 4 000, hein, les combattants de Daesh.
Oui, alors on me dit aussi 5 à 6 000. Il y a vraiment interrogation là-dessus. Mais enfin, il y a quand même 80 000 hommes en face, oui. Avec tous les moyens. Mais vous avez le pouvoir égalisateur de la guérilla, qui fait que quand vous êtes à l'intérieur d'une ville et que vous allez déclencher la guérilla, même si vous êtes à 1 contre 50 ou 1 contre 100, vous avez un avantage. Donc pour reprendre mon image des vieilles conquêtes de places fortes au Moyen-Âge, donc il faut d'abord s'approcher au plus près et prendre les contreforts.
Village par village, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, exactement. Hein. Et là, Daesh a un problème, il n'a pas suffisamment de soldats pour arriver à tenir toutes ses positions extérieures. C'est pour ça qu'il y a cette impression d'aller vite. Encore une fois, prudence. Une fois que l'étau se sera véritablement resserré, il faut investir la place. Après, il faut la contrôler, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a plus de combattants à l'intérieur qui sont morts ou capturés, plus de mines et de pièges. Et puis, l'étape ultime et qui est fondamentale dans cette affaire, c'est pour ça que Mossoul est une bataille historique par bien des aspects, c'est après, il faut la gouverner. Ah. Et il faut que Mossoul soit la vitrine d'un nouvel Irak. Donc, soit ça devient... Donc, il n'y a pas simplement l'engagement militaire qui va être très compliqué. Il y a le résultat politique, et là on verra si on débouche sur un nouveau conflit avec tous les protagonistes que vous avez cités. Il y a aussi les Turcs.
On va y revenir dans le détail, bien sûr.
Extrême. Donc c'est majeur de ce point de vue-là pour l'avenir.
Mais juste ces 3, 4, 5, 6 000 combattants de Daesh, on ne sait pas exactement combien ils sont. Ils ont le temps de se préparer, bien sûr, pendant 2 ans. Ils sont déterminés, ils vont aller franchement au combat, ils sont suffisamment armés.
Alors, oui, ils ont perdu beaucoup de l'armement lourd. Tout ce qui était un peu lourd qu'ils avaient pris à l'armée irakienne, tout ce matériel américain neuf,
bah oui,
qui était en Mossoul, 0 km au compteur, tout ça a été cassé par les avions de la coalition américain, français, britannique et autres. Donc ils n'ont plus ce matériel lourd, mais ils ont toute une gamme d'autres matériels, du mortier, du RPG, de la Kalachnikov, beaucoup d'explosifs, beaucoup de mines et une expertise dans ce domaine. Donc ils ont eu le temps effectivement de miner et de piéger. Alors est-ce qu'ils vont se battre jusqu'au bout? J'ai des informations contradictoires entre ceux qui disent il y a beaucoup d'Irakiens dans les combattants, donc qui sont originaires de Mossoul, donc ils vont se battre jusqu'au bout. Et puis les derniers échos que j'ai, non, pas du tout, sont en fait les combattants étrangers. Vous savez qu'il y a à peu près 80 nationalités représentées dans les forces de Daesh qui vont être là, et eux, c'est no future, il n'y a pas d'avenir, ils vont mourir, ils vont se faire exploser. Dernier point de détail, si je puis dire, on connaît tous le film Mad Max. On a vu des répétitions avec Charlize Theron, avec ces véhicules complètement caparaçonnés d'acier. Les ingénieurs de Daesh se sont spécialisés dans la construction de ces espèces de diplodocus protégés par du blindage, qui sont chargés de 1 tonne, 2 tonnes d'explosifs, et qui vont aller se fracasser sur les combattants en face. Et souvent avec une vague. Vous en avez un premier qui arrive, et s'il n'y a pas une frappe aérienne ou d'hélicoptère tout de suite, il peut aller au contact, et après vous avez une ribambelle de véhicules plus petits, et vraiment comme Mad Max, c'est moi les mêmes images,
bien, ouais,
qui vont aller se faire exploser. Donc, évidemment, complexité, doute sur le chimique. Est-ce qu'il y a du chimique ou du chimique dérivé ou du chlore? Est-ce que ça peut être utilisé? Voilà. Donc il y a pas mal d'inconnus quand même sur la nature des combats.
Et on voit comment, eh bien, ce vendredi, donc l'État islamique a mené aussi une offensive avec des attentats suicides à Kirkouk, hein, une autre grosse ville de cette région, donc proche d'Erbil au Kurdistan irakien, et puis pas très loin quelque part de Mossoul. Juste, les forces de la coalition, que font-elles? Les Américains, les Français?
Alors, donc, toute la coordination, toutes les frappes aériennes qui sont destinées à la fois à bloquer les mouvements des troupes adverses, mais également de faire de l'appui aux troupes au sol. C'est-à-dire que chaque fois que les Peshmerga ou l'armée irakienne rencontrent du dur, ils font appel à des frappes de la coalition américaine, française et autres, etc. La France est présente au sud par des canons César. C'est des canons... je les connais bien, je les ai vus à l'œuvre en Afghanistan. Ce sont les canons les plus performants de l'armée française, qui ont une portée de 40 à 50 kilomètres et une précision métrique. Ouais. Donc en fait, ces canons qui sont montés sur camion vont se déplacer de façon accompagner le mouvement d'encerclement et avoir cet appui à la demande des troupes. Il n'y a pas d'implication directe. La question, c'est les forces spéciales. Il y a des forces spéciales américaines qui ont formé des combattants, et on sait par différents témoignages qu'elles font comme ce qui se passait en Afghanistan quand il y avait des formateurs français, américains ou anglais qui formaient les troupes afghanes et qui montaient au combat avec leurs camarades. Donc là, les Américains le font. Que font les Français? Est-ce que les Français font du guidage de frappe laser ou autre? Mais donc, vous avez cette implication et cette coordination. Donc, ce qui fait que vraiment, l'étau va se resserrer, et que pour les combattants djihadistes, c'est vraiment toute la symétrie sur laquelle ils vont jouer à travers tous les tunnels qui ont été construits, comme ce que faisait le Hamas contre Israël en faisant exploser un immeuble entier au passage d'une section, etc. Voilà, donc c'est ça, et c'est par ailleurs ce que vous avez indiqué, c'est les stratégies de contournement.
Voilà.
C'est-à-dire, j'attaque ailleurs, je montre l'ubiquité, je frappe à Kirkouk. Dernier point, c'est toutes les manipulations possibles à travers l'utilisation d'uniformes de l'adversaire, armée irakienne, police irakienne, et y compris certainement pour essayer de provoquer des combats fratricides.
Oh là là.
Et de façon à, dans la mesure où on, tout le monde marche sur des œufs, ouais, on sait bien que dans ces combattants qui convergent, il y en a certains qui se haïssent. Ouais. Les milices chiites détestent les Américains. Ouais. Ils sont toujours dans la posture d'une haine des Américains. Certains combattants irakiens soutenus par la Turquie, donc notamment des sunnites, détestent par ailleurs les chiites. Donc si vous arrivez à vous infiltrer dans les interstices et à mettre une allumette là-dedans, ça peut freiner le combat. Donc voilà, beaucoup de prudence dans l'analyse, il faut avancer pas à pas et regarder comment ça se passe.
Je suis désolé d'abuser, Pierre Servan, j'ai encore plein de questions à vous poser. À la manœuvre, hein, on voit aussi les forces kurdes, hein, les fameux Peshmerga, donc, qui ont lancé l'assaut sur plusieurs villages contrôlés par l'État islamique. Qui sont ces Peshmerga? Comment sont-ils entraînés? Comment sont-ils armés, justement? Voilà, ces combattants du Kurdistan irakien autonome.
Voilà, qui ont été rejoints par des Kurdes syriens, qui sont les ennemis mortels des Turcs. Les Kurdes irakiens sont plutôt amis, enfin ça se passe bien avec la Turquie. Toujours. En revanche, les autres, c'est leur ennemi mortel, enfin on le sait très bien. Alors, ils n'ont pas fait preuve, il y a deux ans et demi, de grand courage au combat. On leur a reproché d'avoir abandonné notamment des villages chrétiens, ou yézidis, ou même irakiens sunnites, d'avoir, même s'ils ont une tradition militaire, d'avoir fui. Ils sont formés maintenant par les forces spéciales, notamment françaises, qui ont fait un travail, les commandos français ont formé les Peshmerga, notamment à l'utilisation du matériel militaire que la France a donné. C'est un point qui est peu connu, qui est tout à fait ouvert, qui n'est pas confidentiel. Mais la France a fourni notamment des canons, des pièces d'artillerie, mais légères, du mortier. Et donc, ces combattants Peshmerga ont été formés, équipés également par les Américains, par les Irakiens. Et vraiment, ils ont retrouvé totalement leur combativité. Ils sont chez eux, mais il y a l'arrière-pensée. L'arrière-pensée, c'est là où un Kurde mettra le pied, ça permet une extension du domaine du Kurdistan. Et donc là, c'est tout le problème politique dont je parlais. Il faut arriver à tenir tout ça reine courte pour que les objectifs militaires soient remplis et que ça n'explose pas sur les divisions politiques du pays.
C'est pour ça qu'à Paris se tenait donc jeudi une réunion visant à préparer l'avenir de la ville, hein, l'avenir de Mossoul justement. Qui libérera la ville? Qui va la contrôler? Y aura-t-il un partage du pouvoir? Vladimir Fedorovski, on vous écoute à présent.
Vous savez, il faut espérer que ça se passe d'une manière heureuse là-bas, parce que les enjeux sont considérables. Mais quand même, il faut prévoir des choses aussi difficiles. Pour l'instant, on peut être dans la logique que tout le monde va se battre comme tout le monde aussi. Et ça, c'est un grand enjeu politique.
D'une guerre va faire naître une autre guerre
dans la région. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'au-delà de la coalition qui existe, on essaye d'arranger les choses plus largement pour trouver un certain degré de la stabilité de la région à l'avenir.
Avec qui alors?
Avec les autres, avec les Russes, avec les Iraniens, etc. Il ne faut pas se tromper des adversaires. Ma petite expérience d'autrefois prouve que si on veut faire l'alliance militaire ou alliance tout court avec seulement Arabie Saoudite ou Qatar, ça ne suffit pas qu'ils ont autrefois financé ces gens-là. Il faut qu'on voit les priorités. Et le danger de cette situation, si on n'est pas ensemble, que ça dérape. Ma compréhension, c'est ce que la guerre mondiale a commencé. C'est la guerre mondiale, pas contre les Russes, mais contre les islamistes. Ce sera une guerre longue et meurtrière. C'est eux qui viennent tuer nos enfants. Ici, si on ne fait pas une certaine lucidité, malheureusement, on est dans la période électorale maintenant, les États-Unis vont connaître les choses, mais quand même, après, il faut voir comment ça se passera. Après, il faut voir les priorités.
Oui.
La priorité, c'est la lutte contre l'islamisme, et il faut que la coalition soit large et efficace. Pour ma part, je souhaite tellement que ça se passe le plus heureusement possible.
Alors, la coalition large, justement, Pierre Servan, on a Mossoul qui se trouve tout au nord, à la limite du Kurdistan irakien. On le voyait tout à l'heure sur la carte, hein, sur BFM Business. On est à quelques encablures de la frontière turque. C'est quoi le rôle des Turcs, justement? Est-ce que j'ai l'impression qu'ils veulent participer à la bataille de Mossoul?
Oui. Ils sont arrivés, comment dirais-je, un peu derrière les accords qui ont été mis en place. Si la bataille de Mossoul a été, la reconquête de Mossoul a été retardée, c'est à la fois pour recueillir du renseignement extrêmement précis, y compris la capacité pour les Occidentaux à avoir des représentations 3D de toute la ville, et notamment des points nodaux, des points centraux où on pense que peuvent se trouver les têtes pensantes de djihadistes. Et on sait qu'ils sont enfermés dans des bâtiments notamment publics. Ça peut être par exemple une poste, ça peut être des hôpitaux, etc. Donc il a fallu recueillir du renseignement satellitaire, avions, drones, mais humains venant de la résistance intérieure. Donc tout ça est très important, ce qu'on appelle le renseignement à fin d'action. Vous avez du renseignement d'ambiance. Ça permet de savoir comment Daesh se comporte, comment il tue les gens, le fait qu'il recrute de force un enfant, enfin un jeune adolescent par famille, etc. Et puis après, le renseignement à fin d'action, c'est vraiment tout ce qui va permettre de nourrir les dossiers d'objectifs, à la fois des avions de combat et de l'artillerie. Donc, ça a pris du temps. Mais l'autre élément majeur, ça a été de se mettre d'accord sur les accords politiques. Qui va jusqu'où ? Qui rentre ? C'est ce que vous disiez. Donc, normalement, il n'y a les Peshmerga ne rentrent pas. Les milices kurdes ne rentrent pas. Donc normalement, ce n'est que l'armée officielle irakienne, les forces spéciales irakiennes et la police qui doit rentrer. Et puis tout d'un coup, les Turcs se sont réveillés en disant « mais tout ça va nous échapper ». Et via des milices sunnites qu'ils contrôlent, ils les ont mises dans le dispositif. Et la Turquie se positionne comme protecteur des sunnites. Mais le problème, on en reparlera, c'est qu'il y a aussi dans la tête d'Erdogan la restauration de l'Empire ottoman. Kirkuk, Mossoul étaient jusqu'en 1923, au traité de Lausanne, des villes turques. Et donc, on a ce poids de l'histoire en permanence. Alors, la Turquie ne va pas envahir le nord de l'Irak.
C'est ce que je voulais dire, ils veulent pas revenir.
Non, mais elle y est présente. Ouais. Ils y sont présents militairement contre l'avis de Bagdad. Le Premier ministre cesse d'insulter, enfin, en tout cas, de reprocher cela au président Erdogan. Et là, on est dans des logiques assez russes, poutiniennes, de l'étranger proche. C'est-à-dire que je vais peut-être pas nécessairement envoyer mes blindés, mais je veux contrôler via des locaux. Donc, c'est l'image du Donbass. Donc faire un Donbass turc, si je puis dire, dans le nord de l'Irak, voilà les choses. Et c'est pour ça que Vladimir connaît ça par cœur.
Vladimir.
On est dans les poupées russes. C'est-à-dire que dès que vous en ouvrez une, vous en avez une autre. Et vous croyez être arrivé à la dernière, non. Vous en avez encore 3-4 dedans.
Petite. Ouais.
Bien sûr, mais évidemment, le rôle de la Turquie sera majeur. D'où vient la nécessité maintenant de renouer les dialogues avec les Turcs, bien entendu avec les Occidentaux. C'est très important la lucidité des Occidentaux face à cela, parce que vous comprenez, nous avons connu les dessins autrefois de la facilité. Nous avons connu la diplomatie de BHL en Libye. Il n'y a plus de Libye. Nous avons connu en Irak comment ça s'est passé. Il y avait les dessins sur le papier, vous comprenez. Parce que vous savez, Pierre, il connaît ça par cœur. Le Proche-Orient, c'est pas seulement les stratèges dans les cabinet de Paris ou de Washington, c'est sur le terrain. Il y a le souterrain là-bas, vous comprenez ? Ça ne se passe pas.
Vous le connaissez aussi, vous avez été l'interprète de Brejnev avec les dirigeants du monde arabe.
Et puis, franchement, j'ai connu ces gens-là physiquement, et Pierre, elle connaît aussi. Vous savez, c'est pas si facile que ça. D'où vient la nécessité, une certaine lucidité, mais le rôle de la Turquie sera très important dans les années qui viennent.
Juste un petit mot, on va parler de la Syrie dans un instant, Pierre Servent. Après Mossoul, on dit que Raqqa, la capitale, capitale politique, entre guillemets, de l'État islamique de Daesh, dans le nord de la Syrie, ce serait le prochain objectif. Il aurait fallu matcher, faire les deux en même temps ? Raqqa et Mossoul, c'était possible ?
Non, pas possible. D'abord, il faut bien voir que si Mossoul tombe et est bien gouverné, Daesh n'a pratiquement plus aucune implantation territoriale. En dépit d'une petite ville qui s'appelle Tal Afar, qui est à 50 km de Mossoul à l'ouest. C'est un axe d'ailleurs qui est resté ouvert par lequel éventuellement des djihadistes pourraient partir. Peut-être qu'ils seraient frappés après par la suite, mais Daesh perdrait son implantation territoriale, ce qui amènerait Daesh certainement à se disperser, ses derniers combattants, pour être dans une posture de guérilla. Alors après Raqqa, le problème c'est qu'on touche à la Syrie. Alors là, déjà que les téléspectateurs, les auditeurs doivent se dire, c'est quand même très très compliqué l'Irak, la Syrie c'est puissance 10. C'est puissance 10. Donc s'il n'y a pas, du côté de la Syrie, une amorce de début de règlement politique ou de perspective politique, après c'est difficile d'aligner les planètes pour prendre Raqqa. Ceci dit, un point très important, Daesh a perdu Dabiq,
voilà.
Ô combien symbolique dans le Coran, puisque c'est vraiment
C'est considéré comme le tombeau des croisés, et là, pour le coup, ça sera le tombeau de Daesh.
Eh ben voilà, exactement. Voilà. Donc là, c'est un très mauvais coup pour eux.
Il y a beaucoup pour les autres.
Voilà. Et donc, il faut s'attendre dans les mois qui viennent à de nouvelles manifestations de Daesh imaginatives pour frapper l'opinion publique, parce que là, tous les discours que nous tenons, qui sont réels, c'est que ils ont perdu 40 à 60% de leur territoire, donc ils sont réduits. Or, le combat psychologique, le cybercombat, c'est essentiel pour Daesh. Donc, ils vont essayer de reprendre la main ailleurs, avec des attentats majeurs, dans des capitales européennes ou ailleurs. Mmh. Donc, voilà.
Le grand danger maintenant, et le grand pari pour nous tous, parce que cette guerre, ils vont pousser ça dans l'Europe, mais aussi du côté des Russes, du Caucase, tout ça, c'est les choses. D'où vient la nécessité de cette union sacrée contre les forces du mal?
Alors, Vladimir et Pierre, justement, Alep, hein, après 3 semaines de bombardements intenses, Moscou a décrété une sorte de pause humanitaire, hein, plus ou moins temporaire, une trêve d'une dizaine d'heures par jour, hein, durant lesquelles, eh bien, ses habitants, les rebelles, peuvent théoriquement emprunter des corridors humanitaires.
Le mot rebelle, c'est manié avec beaucoup de prudence.
Alors, les rebelles à Alep Est, en effet, ce sont
qui
des combattants... plus ou moins liés à des extrémistes islamistes, Al-Qaïda notamment, par exemple. Hein, voilà,
Vladimir. Fabrice Landy, j'adore votre langage policier. Rebelles, plus ou moins liés. Faisons les choses d'une manière très claire.
Alors, dites-le.
Très claire.
Voilà.
Vous savez, en Nusra, majorité des gens qui contrôlent vraiment les situations à Alep. Qui sont là?
Si je prends des pincettes, c'est pas du tout pour minorer la violence de ces combattants binaires. Non, c'est parce qu'on sait pas toujours, et Pierre le disait tout à l'heure, au milieu de cette complexité syrienne, finalement, qui fait quoi, qui contrôle qui. Voilà, Alep Est.
Vous savez, je suis désolé pour mon âge avancé, depuis 40 ans de la Syrie. Et je vous assure, en Syrie, il y avait des grands démocrates, des grandes figures qu'on aurait pu prendre la relève. Malheureusement, à Alep, la situation à Alep est contrôlée par les gens très méchants. Et essentiellement avec Nusra. Et notre difficulté, d'ailleurs, la difficulté des Américains, physique difficulté, que quand on dit, comment les séparer, ces gens-là? Et c'est très très difficile, parce que c'est les choses qu'il y a une interpénétration. Vous savez, Dieu sait que je suis contre vraiment les violations de droits de l'homme et tout ce qu'on veut, mais le problème, et vous allez avoir ça aussi là-bas à Mossoul, ils vont utiliser la population civile comme bouclier.
Voilà.
Et la presse, surtout la presse bien pensante, pas vous, Fabrice Landy, mais ils vont faire toute une histoire.
Pierre, à propos d'Alep, justement, c'est vrai, des atrocités pointées par l'Union européenne lors du Conseil européen de Bruxelles qui vise la Russie, qui vise Damas. Un mot sur ces couloirs humanitaires. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette proposition? Puis on se retrouve dans un instant.
Honnêtement, rien de très sérieux, parce que là, j'ai un petit différent avec Vladimir. C'est que je suis d'accord avec lui pour dire que notre ennemi principal, c'est le djihadisme totalitaire. Mais le problème, c'est que je pense que la Russie en Syrie, son objectif principal, c'est pas la destruction des djihadistes, c'est le maintien de Damas. Et derrière Damas, c'est toute une politique d'influence méditerranéenne de Poutine, le développement de la base de Tartous. J'ai eu accès au plan de développement russe, au projet de développement de l'arme navale russe et de l'extension de Tartous. Il y a le porte-avions.
Une top, j'espère, non?
Kuznetsov.
Allez-y, Pierre.
Donc, si vous voulez, le problème, c'est que Poutine s'allie avec le diable, on a vu Damas, en disant, mais on va tuer les autres diablotins. Là, il y a une difficulté, et donc on n'arrête pas de passer d'un bout de trêve à des frappes, etc. Donc, Poutine n'a pas, selon moi, une politique claire. Enfin, si, elle est claire par rapport à des objectifs qui dépassent la lutte contre Daesh.
Pierre, juste un mot.
Non, c'est fini, on se retrouve dans un instant. Vladimir Fedorovski, 7 jours dans le monde, donc on se retrouve dans un instant. Est-ce que le Qatar paye des politiques français pour étendre son influence? On se retrouve sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde sur BFM Business, retour sur l'actualité internationale de la semaine. Tiens, connaissez-vous le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg? Ça sort lundi et c'est signé de Vladimir Fedorovski qui nous accompagne avec Pierre Servant. Premier roman, tiens, j'ai hâte de le lire, hein, je l'ai reçu en fin de semaine. Le testament Olic, A-U-L-I-C-K, c'est qui Olic?
Alors Olic, c'est un personnage, c'est un Allemand en l'occurrence, qui a été soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale et qui a écrit dans des conditions mystérieuses un document sur sa vie, qui se termine en 45 d'une façon particulière. Et donc, c'est un regard sur toute cette période de la Première Guerre à la Deuxième Guerre du côté allemand, mélangé à une histoire d'amour entre un professeur d'histoire qui a découvert ce document de façon totalement fortuite et sa collègue qui est prof d'allemand et qui l'aide à traduire ce document. Donc, c'est une histoire à deux temps, mais qui va se mélanger, et il y a une adhérence entre le temps ancien et le temps présent, et un peu comme l'ombre portée d'Aulik sur l'histoire d'amour de ces deux jeunes professeurs qui vivent aujourd'hui.
Et ça sort le 11 novembre, évidemment, la date n'est pas choisie au hasard, le vendredi 11 novembre. Juste un mot, Vladimir Fedorovski, puisque finalement, cette semaine, la cathédrale orthodoxe russe du Quai Branly a été inaugurée assez discrètement, cette semaine, sans Poutine, qui avait annulé sa visite à Paris suite aux hésitations de François Hollande. Vladimir Poutine, qui ne verra pas non plus, bien, alors qu'il y a contribué quand même assez activement, c'est Bernard Arnault qui le disait, au lancement de l'exposition Tchoukine, donc ce collectionneur avec à la fondation Louis Vuitton, donc des Matisse, des Gauguin, des Picasso. Il aurait dû venir, Poutine, ou pas?
On aurait dû avoir, bien sûr, cette rencontre. Il fallait l'avoir, parce que vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment un des moments les plus dangereux que j'ai connus. C'est pire, que, à mon sens, que la crise de Cuba. Le chef d'état-major américain, Prince, il a utilisé le terme de guerre mondiale presque inévitable avec la Russie. De quoi on parle? Avant-hier, je crois, Gorbatchev et Bush, les vieux routiers de la politique, ils ont dit « calmez-vous, attendez, de quoi on parle ?» Alors, il y a les symboles pour ça. J'étais particulièrement blessé quand ils ont parlé de cette exposition extraordinaire, il faut comprendre, comme des mondanités, mais encore pire. Ils n'ont pas mentionné une exposition époustouflante, deuxième, sur les ballets russes. Les ballets russes, c'est Bakst à l'Opéra de Paris. Et je vais terminer pourquoi il faut continuer cette affinité culturelle. Il disait, mon ami Diaghilev, fondateur des ballets russes, on est si bien en France parce qu'on est venu pas pour prendre, mais pour donner. Ces expositions, c'est l'éclat de cœur venu de Saint-Pétersbourg.
Voilà, l'exposition Tchoukine, avec notamment des tableaux de l'Ermitage, donc qui sont exposés à la Fondation Louis Vuitton. Alors, on évoquait il y a quelques instants l'inauguration de cette cathédrale orthodoxe russe, à laquelle participait notamment cette inauguration, Madame Dati, la maire du 7e arrondissement, Monsieur Le Guen, le ministre des Relations avec le Parlement. Deux noms cités dans le dernier livre des journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno, nos très chers émirs. Mais pas que, puisqu'on cite Dominique de Villepin, il y a une sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, et on y lit que l'ambassade du Qatar à Paris est sollicitée régulièrement par des politiques pour des demandes de subventions pour des écoles, des mosquées, des associations, voire des vacances personnelles. Christian Chesneau, il est journaliste à France Inter.
C'est quand même un symptôme qui est quand même assez inquiétant, parce que si on se tourne vers une ambassade étrangère pour financer une mosquée, une école ou un gymnase, c'est vrai que c'est un peu, ça en dit long sur l'état de la France, quoi. Il y a aussi un problème de, j'allais dire presque sans employer de grands mots, de morale ou d'éthique, c'est-à-dire que c'est quand même incompréhensible qu'un député français vienne harceler un ambassadeur étranger pour lui demander de lui payer une paire de chaussures et pour refaire sa cuisine.
Voilà, Christian Chesneau, voilà, livre explosif. Alors, concernant Jean-Marie Le Guen, celui-ci aurait proposé de bloquer toute question hostile au Qatar, à l'Assemblée nationale, moyennant finance. Lui, comme Rachida Dati, et puis sûrement d'autres, eh bien, vont saisir la justice pour diffamation. On va pas se prononcer sur le fond, d'autant plus que, ce sera un juge qui, normalement, eh bien, sera amené à le faire. La France, c'est une cible particulière de l'argent du Qatar. On le voit donc avec ses participations dans des grands groupes. Il y a des clubs de football, de l'hôtellerie, de l'immobilier, des PME, de l'art, des courses hippiques. Pierre Servent, qu'est-ce qu'ils veulent, le Qatar?
Ils veulent, à mon avis, par une méthode infiniment plus soft, subtile, que les salafistes. Les salafistes au sens général.
Oui, de pensée,
De pensée.
Courant religieux, courant
voilà,
politique.
Voilà, courant, ou le wahhabisme saoudien qui, depuis les années 60, inonde le monde musulman, proche, Moyen-Orient, Afrique, Europe, d'argent, de subsides. À partir des années 60, pour faire pièce au nationalisme arabe laïque, qui était une menace pour eux, donc vous avez ce mouvement-là. Et puis vous avez les djihadistes, Al-Qaïda, qui est une émanation des Saoudiens, Ben Laden était un Saoudien, qui eux sont dans une posture de guerre radicale totalitaire. Mais il y a d'autres modes pour arriver au même objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que à 100 ans, à 1000 ans, à 2000 ans, la planète soit salafiste ou sunnite. C'est ça l'objectif. Et si le Qatar appuie les frères musulmans depuis très longtemps, en Égypte, ou par exemple dans les camps de réfugiés en Turquie ou en Libye, c'est que c'est le même projet mais politique infiniment plus subtil qui est infiltré. C'est les vieilles méthodes du parti communiste ou des à partir de l'Union soviétique, les partis frères, etc. C'est de l'infiltration, c'est acheter des complicités, c'est rentrer partout. Et tout ça, ça joue sur quelque chose que Vladimir connaît parfaitement. Ce sont nos vulnérabilités occidentales qui sont de deux types. D'abord, la fragilité de nos économies, notamment en France, par manque de courage et de réforme, qui fait que maintenant, on est obligé de tendre la sébille pour arriver à s'en sortir. Alors, encore une fois, je ne connais pas le fond du dossier qui est évoqué à travers ce livre, si ce n'est que je connais ces deux journalistes qui sont pour moi sérieux et extrêmement remarquables.
Chenot, Malbruno.
Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, nous sommes dans cette posture de dépendance. Et l'autre chose aussi qui est très frappante dans cette époque de tensions, de bruit de guerre, de matière inflammable, c'est la pauvreté de nos personnels politiques de façon globale, qui à mon avis n'ont pas du tout, alors pardonnez-moi, je vais être vulgaire, les militaires diraient les couilles pour, je dirais, être véritablement face à ce monde extrêmement dangereux. Voilà. Et donc ces deux vulnérabilités fait que vous pouvez avoir de l'entrisme de la part d'un pays comme le Qatar.
Et il faut s'en méfier donc, Vladimir Fedorovski du Qatar.
Je suis complètement d'accord avec Pierre. Ça me rappelle une chose que j'ai beaucoup étudiée ces derniers temps. C'est la période de pré-révolutionnaire en Russie. Je voudrais vous signaler très sérieusement, si on recule demain en Syrie, si on recule à l'intérieur de la France, c'est foutu pour nous. Alors, mon message, ce qu'il faut avantager, pas les médiocres, pas les pourris, mais surtout les gens brillants. Et l'avantager de médiocrité, d'autant plus, vous savez de quoi on parle. On parle sérieux. Je ne parle pas du fond de choses, mais on parle des choses complètement ahurissantes. Le roi est nu. Si Qatar pratiquait ça, cessons de faire ça. Et en sourdine, je dois vous dire que là, Poutine, il joue son message aussi. Il faut comprendre que c'est pas un enfant de cœur. Il, avec le message défense des valeurs chrétiennes, quand il dit, et ça c'est la vérité où il y a un bémol. Il dit, si je recule demain en Syrie, ils vont venir chez moi. Damas, c'est à 600 kilomètres de la frontière russe. C'est ça le fond de problème. Vous savez, dans mon fort intérieur, je pense qu'il s'en fiche du destin de Bachar al-Assad. Ça, c'est, mais le destin de la Russie, en revanche, pour lui, c'est très important.
Question, on a vu, comment on vend des armes, comment la France vend des armes aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, au Qatar, avec les fameux Rafales, à l'Arabie Saoudite également. Vous, le spécialiste de défense, Pierre Servent, il faut revenir, il faut renoncer à leur fournir des armes à tout ce beau monde qui ont des mauvaises pensées?
Non, c'est ça, c'est toute l'ambiguïté et toutes les contradictions que je porte. C'est que nous sommes dans une période où vous devez manger avec le diable et des diablotins avec des cuillères plus ou moins longues. C'est ça le problème. L'Arabie Saoudite a créé en partie Frankenstein, le Frankenstein de Daesh. Et puis quand ils se sont aperçus que sur les réseaux sociaux, les jeunes saoudiens ne juraient que par Daesh, qui demandait de déchoir l'Arabie Saoudite comme protecteur des lieux saints, Médine et la Mecque, en disant « nous sommes les seuls vrais salafistes ». Et que quand ils se sont aperçus que la jeunesse adhérait à ça, l'Arabie Saoudite s'est dit « oh là là, là on est allé trop loin ». Et ils ont changé de pied.
Trop tard.
Et donc, effectivement, aujourd'hui, ils sont clairement dans la coalition anti-Daesh. Et on fait avec. Et je reviens à mes problèmes financiers. C'est qui paye une partie de nos exportations d'armes en Égypte, au Liban, même s'il y a eu des pataquès, on est revenu dessus.
L'Arabie Saoudite. Bien sûr.
Donc, c'est vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le message essentiel. Et je rejoins les préoccupations de Poutine. Je suis historien comme lui. Lui, il a été engagé au cœur de l'histoire contemporaine, au cœur. Moi, voilà. Eh bien, véritablement, nos faiblesses sur le plan économique, le fait de ne pas avoir été courageux depuis des décennies, ça affaiblit à tout point de vue notre stature, notre capacité à peser, même s'il reste une armée qui est belle en France. Mais je veux dire, tout ce manque de courage. Moi, j'ai en travers de la gorge les manifestations contre la loi El Khomri. Syrie. Nous sommes quasiment en guerre et nous avons ces comportements où on va détruire des hôpitaux, des banques,
pour aveugles,
nous avons besoin des banques pour le redressement économique. C'est pathétique. Et effectivement, c'est on danse sur un volcan et on joue de la musique jusqu'au bout. Non, il faut se réveiller.
Réveillons-nous, nous dit Pierre Servent, à propos donc notamment la sortie de ce livre de Chesneau Malbruno, nos très chers émirs. Allez, on continue dans un peu plus de deux semaines. On va connaître le nom du gagnant de l'élection américaine ou le nom de la gagnante, hein, puisque on a l'impression qu'Hillary Clinton est devenue donc eh bien irrattrapable, devançant largement dans les sondages Donald Trump. Elle ferait même mieux, dit-on, que Barack Obama en 2008 et 2012. Bon, on verra évidemment, rien n'est fait, on verra ça le mardi 8 novembre. Mercredi soir, nouveau débat télévisé entre les deux, depuis Las Vegas justement. Et souvenez-vous, on vous en a parlé, il y a eu cette phrase choc de Donald Trump. Reconnaîtrez-vous votre défaite au cas où ?
Je verrai cela le moment venu. Je ne constate rien pour le moment, mais ce que je vois est très mauvais. Les médias déjà, ils sont malhonnêtes et corrompus.
Mais traditionnellement, le perdant concède sa défaite et tout le monde se rassemble pour le bien du pays. Vous dites là que vous ne reconnaîtrez pas le résultat.
Ce que je dis, c'est que je l'annoncerai à ce moment. Je vous laisse dans le suspense.
Ouais, c'est énorme, hein. Ça s'est jamais dit dans une campagne américaine. Alors, le lendemain, bon, Donald Trump a bien essayé de moduler. Il acceptera totalement le résultat s'il gagne. Bah oui, bien sûr. Ou si le résultat est clair. Je sais pas ce que ça veut dire si le résultat est clair. Ça voudrait dire que l'élection pourrait être volée, c'est ce qu'il laisse entendre. Il met en cause un peu la démocratie. Pierre Servent, Vladimir Federovski. Enfin,
ce personnage est totalement infantile. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui aujourd'hui dans la scène internationale, y compris chez nous en France. Pourquoi est-il infantile ? Il est dans la posture, si je ne gagne pas, si je n'ai pas mon joujou, par exemple dans l'émission de télé-réalité américaine à laquelle il a participé, où il n'a pas été lauréat et promu, il n'a cessé de dire après, on m'a volé ma victoire. Et Hillary Clinton l'a coincé dans le débat en rappelant cette histoire, enfin toute une série de comportements infantiles du style, mais on m'a pris mon joujou. C'est-à-dire que si je n'ai pas mon joujou, c'est une trahison, un trucage, un mensonge. Et au moment où Hillary Clinton exposait cette affaire de télé-réalité, il n'a pas pu s'empêcher de dire, oui, on m'a volé, je devais avoir ce prix. Voilà. Donc le problème, c'est cet infantilisme et un type de discours, malheureusement, qui rejoint les peurs de population. Et en face, Hillary Clinton, suscite pas une adhésion fabuleuse. C'est un personnage très très ambigu.
Une adhésion par défaut. Hein,
mais vous savez, hein, quand on voit, par exemple, le dernier livre donc sur François Hollande, là aussi, pour moi, c'est de l'immaturité complète. Et dans la démarche
L'homme est d'avait,
d'un Nicolas Sarkozy, on a l'impression aussi que c'est où est mon joujou qu'on m'a piqué injustement il y a 5 ans. Donc franchement, ce contraste entre les immaturités et le sérieux de l'époque. C'est préoccupant.
Oui, la médiocrité est la tragédie de l'époque. Et je suis effaré par la perspective. Deux psychorigides qui nous attendent. Poutine, je fais l'enquête pour lui. Psychorigide. Oui. Et puis, Madame Clinton. Regardez le niveau de débat, on parle de ça. Le niveau de débat, toutes ces petites phrases, le niveau de débat est effarant. Et je pense que ça va coûter cher pour ces gens, pour ces politiques. Parce que, telle que la France, telle que je connais, elle est en train de se réveiller, j'espère. Parce que je pense que la France exige quelque chose d'autre, un nouveau message, la volonté et le message de l'avenir.
À suivre dans 7 jours dans le monde, le retour de Vladimir Fedorovski, auteur du dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. Pierre Servent également avec nous, le président de la RDC, Joseph Kabila, qui s'accroche au pouvoir. Et puis, Theresa May, de retour parmi les 28.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Encore pendant quelques minutes avec Pierre Servent, historien, journaliste, écrivain, spécialiste des questions de défense, et puis Vladimir Fedorovski. Alors le Brexit, hard ou soft, hein, Theresa May qui faisait son entrée jeudi soir dans ce club des 28. Bah oui, normalement elle en faisait partie de plein droit, sauf qu'elle n'avait pas participé au sommet de Bratislava, donc il y a 15 jours, 3 semaines, hein, sommet européen de Bruxelles, donc ce jeudi soir, avec une première donc pour cette première ministre britannique, qui confirme que le fameux article 50 du traité de Lisbonne sera bel et bien brandi d'ici le mois de mars 2017. avec une sortie donc à terme de du Royaume-Uni de l'Union européenne, des négos qui vont durer à peu près 2 ans. Alors, il n'y aura pas de deuxième référendum. Voilà ce qu'elle a dit, Theresa May. Elle se prononce pour une sortie ordonnée et en douceur. Et en face, hein, si l'on peut dire, bien sûr, on a envie d'aller très très vite. Tenez, François Hollande qui veut se montrer ferme.
Moi, je l'ai dit très fermement. Madame Theresa May veut un Brexit dur. La négociation sera dure. Merci.
Eh ben voilà. Donc, il faut être pessimiste. Est-ce qu'on joue à se faire peur l'un et l'autre? Tiens, dites-moi, Pierre Servan, Vladimir, allez-y, Vladimir Fedorovski.
Il faut être lucide. Et vous savez, on entre dans la période d'incertitude. Dans le cadre de la tragédie qu'on vit dans le monde, il faut avoir une certaine vision. Et je pense que dans ce contexte d'incertitude, il faut que vraiment les Européens soient unis. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a l'aspect dont on ne parle pas sur le plan géopolitique. Il y a l'incertitude à l'intérieur du Royaume-Uni, puisque l'Écosse, quand même, elle va partir ailleurs. N'oublions pas, à l'Écosse, il y a les armes nucléaire, c'est quand même l'endroit où il déployait le principal des armes nucléaires là-bas. Tout ça, c'est les questions essentielles qui doivent poser, mais face à cela, l'Europe doit être unie, c'est le préalable des négociations futures.
Pierre Servan.
Oui, alors, on est vraiment là dans les déclarations d'intention. Mmh. Moi, ce que je crois comprendre de la façon de dénouer les liens du Royaume-Uni avec nous, c'est que ça va être infiniment long et complexe par rapport à la foultitude de textes qui nous lient, qu'il va falloir dénouer. Et à ce moment-là, texte après texte, je pense que les deux parties, c'est-à-dire l'Union européenne et la Grande-Bretagne, va regarder précisément comment sortir au mieux de cette affaire, parce que il faut pas qu'il y ait de dégâts collatéraux. Donc, je pense que ça risque de durer énormément. Donc, le fait de dire ça va être dur, ça va pas être dur, etc. Je sais pas concrètement quel sens ça a quand vraiment on va rentrer dans le dur des textes.
Vous avez raison, Pierre Servan. Tiens, Vladimir, vous parliez d'unité, de déclaration d'intention toujours lors de ce Conseil européen de Bruxelles face au pilonnage intense qui dure depuis 3 semaines donc sur Alep. Les 28 ont envisagé à un moment des sanctions contre la Russie si les atrocités se poursuivent à Alep. Durcissement là, ou semblant de durcissement de la part des partenaires européens contre Moscou, parce que là on voit que tout le monde n'est pas uni, on voit que la Hongrie, l'Italie, la Grèce par exemple ne veulent pas fâcher la Russie.
Pas du tout, mais vous savez, je vais vous dire le problème là-dedans, que sur l'Alep vous savez, je vais vous dire la réalité, je suis absolument sceptique envers l'efficacité des sanctions. Les sanctions, les résultats des sanctions qu'on a pénalisées les agriculteurs bretons, mais au-delà de ça, les Américains ont dit: Vladimir, sois tranquille, on va faire les sanctions, les Russes vont virer mal, ils vont virer Poutine. Ils me disaient ça. Ils ont fait les sanctions, les Russes vivent moins bien, ils pénalisent les agriculteurs bretons, les sanctions, et Poutine n'a jamais été si populaire. Moi, je vais vous dire, dans le contexte d'aujourd'hui, il faut éviter la continuité de la confrontation, éviter de parler de la guerre froide, renouer le dialogue, et c'est comme ça qu'on va sortir de cette affaire.
Pierre Servan.
Oui, alors Vladimir parle d'or, mais le problème, il a utilisé tout à l'heure à propos de Vladimir Poutine le terme de psychorigidité. Moi, dans mon livre Extension du domaine de la guerre, je parle du fait que c'est pour moi un personnage messianique autodésigné, comme Erdogan, comme le président chinois. Al-Baghdadi, lui, c'est toute catégorie confondue. Ce qui fait que la rationalité est compliquée. C'est pour cela que là où je vous rejoins, Vladimir, c'est que moi je crois qu'il faut saisir toutes les occasions de dialogue. Par exemple, l'histoire de la cathédrale, il fallait que Poutine vienne et qu'on discute. Et il faut que la culture, il faut se conserver
quelque part. Voilà.
Et oui, voilà, Vladimir a raison. Si partout vous allumez des foyers, des petits feux, sachant qu'il y en a partout, il y a plus de terrain de rencontre et de discute.
Alors le dialogue, on en aura probablement besoin en RDC, là on va se quitter dans quelques minutes, on est dans l'Afrique, hein, l'Afrique de l'Ouest, hein, le président Joseph Kabila, il est au pouvoir depuis 2001, oui 2001, donc ça fait donc 15 ans, apparemment il cherche par tout moyen à rester à la tête de la RDC, accord en début de semaine, enfin accord entre guillemets, bien sûr, entre la majorité et une formation minoritaire de l'opposition pour repousser l'élection présidentielle prévue au mois de décembre à avril 2017. Hein. La RDC qui traverse une grave crise politique, hein, avec des soupçons de fraude, de malversation. Il y a eu des émeutes meurtrières donc cet automne, au mois de septembre. Il y a eu une cinquantaine de morts. Ça a fait réagir l'Union européenne, qui exige donc des élections d'ici la fin de l'année. Federica Mogherini, c'est la chef de la diplomatie.
C'est essentiel pour l'Union européenne encourager tout le monde à trouver une date pour des élections le plus tôt possible. On pense que encore c'est possible d'avoir des élections en 2017 et aussi encourager tout le monde à être clair sur le fait que la Constitution sera respectée, y compris sur les terms limits, sur les limites de mandat du président Kabila.
Jean-Marc Ayrault aussi a pris la parole. Hein. Il a dit, voilà, cet accord à Kinshasa n'est pas une réponse à la crise politique. Alors le pouvoir congolais de RDC parle de violente antipathie de la France à son encontre. Déjà, est-ce qu'ils avaient le droit de parler, Ayrault, Federica Mogherini, sur cette crise en RDC?
Ben oui, bien sûr, on en a le droit de parler compte tenu de la responsabilité de l'Union européenne et puis aussi parce que ces crises derrière, ça fait des guerres, des morts et ça fait des masses de migrants qui arrivent chez nous. Donc il y a quand même un dialogue nécessaire. Le problème, c'est que on a une Afrique aujourd'hui qui est quand même extrêmement fragile. On parle peu du Sud-Soudan, où vous avez des massacres, le Burundi, le Gabon encore récemment et le problème des chefs d'État africains. Qui ont dans la culture africaine, c'est très compliqué de passer le pouvoir. Moi, j'ai appartenu à un cabinet ministériel. Il y a eu une alternance politique. Ben, je peux vous assurer que il faut vivre dans une vieille démocratie pour accepter, alors que vous êtes en responsabilité, tout d'un coup, de passer la main à des gens que vous considérez comme des abrutis. J'exagère. Mais donc, c'est compliqué. Et en Afrique, on a le problème, c'est que dans les années qui viennent, vous avez un grand nombre d'élections.
Vladimir, ce sera le mot de la fin. Hein.
Bah, écoutez, la France doit être bien présente quand même en Afrique, parce qu'il y a une tradition démocratique qui vient d'ici.
Voilà. Et on voit comment certains présidents s'accrochent au pouvoir. Merci à tous les deux. Le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, signé de Vladimir Fedorovski, qui sort donc ce lundi. Voilà. Alors, 700 pages.
Mystère, amour et évasion.
Nécessairement, comme à chaque fois. Et puis, Pierre Servant, on attend évidemment le roman, le testament aulique. Bonne chance, donc, Pierre Servant. À très bientôt. 7 jours dans le monde. C'est terminé sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.